Alors là, on va commencer la plénière. Donc là, ça discute pour l'instant autour des tables, mais on va la commencer.
Sur le sujet du comité d'espérance. D'accord ? Donc, Léa va faire une première synthèse, mais surtout ceux de son groupe, n'hésitez pas à la compléter si vous estimez qu'il y a un petit élément anecdotique ou au contraire très important qu'il serait bon de partager avec chacun, chacune.
Même s'il y a quelque chose dont je ne parle pas, que vous avez évoqué comme important, n'hésitez pas à le partager.
Alors, vous avez le droit aussi de vous rapprocher si vous avez envie de voir, parce que forcément, c'est du support écrit. N'hésitez pas.
En tout cas, on a commencé par cette heure où on s'est baladé dans le château comme l'autre groupe dans le parc. Et on s'est posé assez directement la question de la conservation du point de vue de ce qui se passe à l'étage. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ici, quand on est en bas. On s'est demandé tout de suite si la conservation préventive, finalement, c'était seulement la question des insectes ou si c'était aussi la question de est-ce qu'on rénove, est-ce qu'on a les moyens de faire une rénovation et puis finalement pourquoi on rénove, est-ce qu'on rénove pour que le public puisse voir, pour que le lieu soit vivant, ou est-ce qu'on rénove pour en faire quelque chose de caché ou pour en faire un musée plutôt. Donc c'est plutôt pas la direction qu'a pris Esperant depuis assez longtemps. Et ensuite, en revenant sur place, on s'est posé deux questions. Moi, je vais vous présenter la partie comité d'espérance, la manière dont on l'a alimenté. Donc, tout d'abord, on s'est vraiment posé la question de la toute première étape d'interroger. Comment est-ce qu'on interroge finalement? Est-ce qu'on interroge seulement la partie technique ou est-ce qu'on interroge les valeurs? Donc philosophiquement, là directement, on s'est posé la question des valeurs. C'est-à-dire comment est-ce qu'on conserve et pourquoi est-ce qu'on conserve? Donc c'était le mobile même de l'interrogation et de l'action qu'on veut faire. Et ensuite, on s'est intéressé à deux questions en même temps, c'est-à-dire la question de fédérer, donc trouver des personnes à qui s'associer, c'était retenu comme quelque chose de très important, trouver des personnes qui peut-être sont dans le même genre de pratique. On a donné l'exemple du château de Saxe, il me semble. Et ensuite, la partie transmettre, on a eu vraiment envie, le groupe a eu vraiment envie de mettre l'accent dessus, c'est-à-dire quand on a une démarche comme ça qui est assez novatrice et qu'on expérimente des choses, c'est pas le plus important, mais en tout cas, il faut vraiment insister dessus, c'est le transmettre, le partager à d'autres personnes et peut-être mettre en commun avec d'autres types qui feraient la même chose. C'est très synthétique, donc si quelqu'un de vous veut rajouter quelque chose.
Moi, je veux bien apporter une petite nuance parce que dans notre interrogation, qui est très intéressante sur faut-il finalement conserver ce patrimoine de l'État dans lequel il était là-haut. Vous avez parlé de conservation préventive, de rénovation, c'est antinomique en fait. C'est-à-dire que pour préserver ce patrimoine, notamment les collections, il est indispensable de réhabiliter le bâti pour qu'il puisse offrir des conditions satisfaisantes en termes notamment climatiques, parce qu'on a des problèmes d'humidité, etc. Et donc, je me souviens, on avait évoqué cette question. La restauration, ou la rénovation, j'oublie ce mot, il n'existe pas pour moi. La restauration, c'est une option. On peut toujours décider de reporter à plus tard la restauration, dans ce sens qu'on n'a pas forcément le budget pour restaurer et on n'a pas forcément un projet scientifique et culturel dans lequel inscrire le propos de la restauration, jusqu'où restaurer, quel niveau d'intervention, etc. Donc ça reste une option. Par contre, la conservation, c'est une obligation à partir du moment où c'est un bien public et on a décidé que c'était du patrimoine. Et je dirais même plus globalement au-delà du bien public, si on donne un statut patrimonial à quelque chose, y compris chez vous, c'est pour le préserver, pour pouvoir le transmettre. Donc de toute façon, ça devient une obligation. Le restaurer, c'est-à-dire changer son aspect, son image, c'est une option. On peut décider toujours d'attendre. Par contre, là où c'est un peu troublant comme terme, d'où la précision sur le langage, c'est qu'on va devoir passer par une réhabilitation du bâti pour assurer les conditions de conservation.
Merci pour la question.
D'autres personnes du groupe qui voudraient, pareil, préciser ou compléter des éléments qui ont été partagés?
Moi, je crois qu'il y avait plusieurs personnes, en tout cas, qui parlaient de la présentation, là, de interroger jusqu'à transmettre, qui était présentée dans une linéarité, qui n'est pas une réalité. Du coup, il y avait plusieurs options, mais dans le domaine français. Et en tout cas, en fait, on avait très envie, très vite, de mettre des flèches partout. Donc, de bien penser qu'effectivement, ce processus n'est pas linéaire et qu'il faut incessamment faire des allers-retours. Que quand on interroge, effectivement, quand on recherche, on expérimente, ça remet en question une partie d'analyse, ça peut relancer une nouvelle interrogation, peut rien que vous disiez aussi pour repartir d'un bout à l'autre, rien que le principe qui est proposé là d'interroger ensemble, rien que cette étape-là est déjà à construire et partager, même si on n'a pas fait tout le cheminement de l'exploration. Donc ça, je trouve que c'est important, parce qu'effectivement, le coup, c'est un format qui est présenté comme ça, au travail à table. Et qu'en fait, dans le concept, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui sont à tout moment à repositionner et avec des liens différents à toute étape du travail.
Très bien. Et ça, c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement qui est bien particulier et qu'il est important de préciser pour ce que l'on attend effectivement de ces groupes de personnes dans le cadre d'un comité d'espérance qui pourraient traiter d'une question, d'une remise en question.
Je pense également que ce qui vient d'être dit, qui est très important dans un un travail de suivi à long terme, parce que ce comité d'espérance, il a vocation à avoir une durée et puis il y a une certaine constance dans ses participants. Tout travail itératif nécessite cette approche en cercle, parce qu'on doit sans cesse vérifier la pertinence des présupposés, puis ensuite l'adaptation des mesures, puis les résultats. Et donc on réinterroge en fait en permanence, et c'est exactement la même chose pour la conservation préventive. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des dispositifs, on s'aperçoit que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, qu'il faut le modifier. Et donc la vision en cercle est une vision toujours beaucoup plus pertinente.
Et avec cette dimension expérimentale qui fait qu'on ne se prive pas de passer à l'action.
Absolument.
Parce que de se donner le droit de faire un saut, de revenir sur une autre case pour repartir, il faut faire attention de ne pas se priver de l'action. Il faut quand même qu'on soit sur quelque chose d'opérationnel. Donc on fait, mais on réinterroge ce qu'on fait, qui peut nous ramener effectivement à une autre case. Mais ça, voilà, cette notion du « on est là quand même pour agir ». Très bien.
S'il n'y a pas d'autres interventions, peut-être que Julien peut présenter la
charte. Non, on fait le comité d'espérance tel qu'il a été vu par le groupe.
Mais on n'a pas présenté du coup
la charte, qu'est-ce qu'on fera après la charte.
Ah, d'accord,
c'est fait, comité, on comité, pas
comité. Ah, comité,
oui, charte. Oui, comme ça, c'est, je trouve que c'est plus. Voilà, on reste dans le comité d'espérance. Alors, vous nous avez fait quoi dans le groupe de parc? Ça ressemble ou ça ressemble pas?
On est parti un peu en race campagne, hein, si c'est normal. On est allé se balader, du coup, nous sommes promenés. Ce qui ressort essentiellement, c'est que d'une certaine façon, nous avons réinterrogé la question elle-même. C'est-à-dire que les débats, voilà. La question de départ, effectivement, était quels sont les enjeux de la biodiversité, si l'on considère qu'il y a un entretien, alors pas qu'au printemps, hein, justement, le printemps était peut-être la meilleure saison, celle où on fait le plus de choses, mais en tout cas, cet entretien du parc, comment est-ce qu'il peut être fait, tout en tenant compte, effectivement, de ses impacts sur la biodiversité et aussi de la nécessité d'accueillir, du souhait d'accueillir du public dans de bonnes conditions, mais aussi de préserver, voilà. Donc toutes ces questions qui ont été posées au départ, c'est comment on concilie en fait cette biodiversité et préservation du patrimoine du parc paysager et entretien de ce parc paysager et accueil du public. Donc nous sommes allés nous promener et au fil et à mesure des discussions, ce qui a été recréé comme question, j'essaie de la, vous me direz si elle vous convient, de la reformuler finalement en fin d'atelier ainsi, qui serait plutôt comment communiquer sur ce qu'on voit et ce qu'on fait de manière à susciter une compréhension, un bon usage du lieu et une adhésion aux valeurs du projet. En gros, la question, c'est plus comment est-ce qu'on transmet au public et pas qu'au public le projet, en fait, que le projet en général du château, c'est-à-dire l'ensemble de la démarche, pour que ce qu'on voit et ce à quoi on participe, on le comprenne de manière à pouvoir s'approprier et avoir un bon usage du lieu. Donc, ça s'adresse au public, mais pas que. Voilà, donc, je dirais que c'est un peu la question finalement à laquelle nous avons répondu. Et pour cela, si tu veux continuer sur la question des valeurs.
Et bien, pour cela, la question des valeurs, on revient à quelque chose de similaire par rapport à l'autre groupe, a été posée. Quelles sont les valeurs du projet? Ces valeurs, elles sont. Le projet décline des valeurs du château, du lieu, du parc et de son histoire et de son avenir aussi. Qu'est-ce que ça va devenir? Quelles valeurs sont les plus pertinentes pour que cela continue? Quelles valeurs transmettre aux personnes qui viennent visiter, aux artistes qui viennent en résidence, mais aussi quelles valeurs partager avec tous les acteurs, pour ceux qui vont faire des travaux, des choses comme ça, qui vont pouvoir aller dans ce lieu. Et cette question des valeurs, elle a aussi découlé ensuite sur la valeur du lieu en lui-même, qui est du coup toujours en mouvement. Aujourd'hui, il y a une volonté d'augmenter l'accueil du public, d'avoir une plus grosse capacité d'accueil, soit des scolaires, soit d'augmenter des visites. Ce projet se déroule en parallèle de l'ORE, et du coup, le comité d'espérance ressort comme un lieu où il est important que les actes, que ce qui est décidé au sein de la structure même du château et de la structure, même des archives et tout ça, de ce qui se passe ici, soit aussi du coup retranscrit au travers du comité d'espérance et inversement, et qu'il y ait des liens entre toutes les différentes institutions qui gouvernent tout le site. Et aussi du coup un lien avec le festival ACT qui pourrait devenir un espace de. une rencontre annuelle et qui soit aussi du coup où l'ORE puisse s'intégrer, où on valorise, je ne sais pas, chaque année une action de l'ORE au travers de ce festival, ou que le thème annuel, du coup, il y a des actions de l'ORE qui en découlent tous les ans, qui soient reliées, que tout ça s'inscrit dans un projet global, puisqu'il y a plein de projets qui se développent en parallèle au sein de chaque.
Donc ça, c'est, dans, c'est la partie instituée, dans ce qu'il faut effectivement s'instituer en proposition, c'est que l'acte soit l'aboutissement de... le point de départ ou le point d'aboutissement d'une réflexion d'une année, voire de plusieurs années, à travers son thème, ce qui est déjà un peu de se, en fait de se, en train de se produire aujourd'hui. Ça participe de donner du sens, pour répondre à la question du départ, dans ce qu'on voit et dans ce qu'on fait au château. Dans ce qui a été institué également, proposé d'être institué, c'est le fait que toute action soit guidée, qu'elle soit dans la notamment dans la communication, mais que toute action soit guidée par un rappel de la raison d'être historique et j'irai aujourd'hui. Cette notion de projet, en fait, c'est quoi le projet aujourd'hui? Et donc la raison d'être qui est issue du passé. Nous sommes un lieu patrimonial, effectivement le parc il est plus pensé pour mettre en valeur le château, etc. Allons chercher une raison d'être du lieu et du projet dans le passé, mais aussi dans l'aujourd'hui. Donc le fait d'instituer cette raison d'être dans toute action, en fait, d'avoir, on a dit des valeurs, d'avoir vraiment un projet partagé, ce qui ressort, c'est ce besoin de se fonder, d'avoir des fondamentaux. C'est-à-dire qu'on est dans on va être dans l'expérimentation, dans l'action sur cet espace, mais pour cela, il faut que, pour qu'on puisse rechercher et expérimenter, il faut qu'on soit très clair sur la part de l'expérimentation et ce qui est véritablement un fondement, une base, et ça a occupé beaucoup des discussions.
Et jusqu'où on peut aller? Fixer aussi des limites et un cadre quand même à cette expérimentation qui soit du coup partagée, qui ait les bonnes valeurs entre guillemets.
Ok, et du coup là, dans tout ça, le comité d'espérance, c'est un outil, enfin j'ai du mal à comprendre du coup le comité d'espérance dans ce déroulé, où j'entends comment tout se met en lien finalement par rapport à un système de valeurs qui doit être bien établi, etc., avec une raison d'être, mais je ne sais pas si je suis la seule, mais je visualise pas le comité d'espérance, comment ça fonctionne. Je vois un projet sur du temps long, qui du coup se décline sur une année, deux années, j'en sais rien. Enfin, mais vous voyez ce que je veux dire?
Ou du coup, par rapport à l'existence d'aujourd'hui, on a un mode de gouvernance qui est ce qui est. Il se situe où le comité d'espérance, en fait, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, si on prend une décision, on la prend... j'appelle avec la DRAC, une discussion avec la DRAC, on se réunit, on discute de cette manière-là, ou j'appelle ma dire la direction, ou on règle des choses en interne au sein du groupe, de notre groupe qui travaillons ici à Espérant. Mais où se situe le comité d'espérance en fait?
De ce que j'interprète, mais alors du coup, ce qu'on
prend le groupe, question posée au
groupe. Voilà, ce qui a été dit, c'est que. Ce qui en ressort, au final, c'est que ce comité d'espérance, pour moi, c'est pas forcément le lieu qui va définir ses valeurs, etc. Lui, il va s'appuyer sur des fondamentaux. Pas de bêtises, vous y retrouvez. C'est-à-dire, le comité d'espérance, il a un rôle dans la recherche et l'expérimentation, et vraiment dans l'interroger. C'est le lieu où on va poser les questions concrètes, entre guillemets.
De mise en œuvre.
De mise
des
en œuvre.
Des actions qui sont prévues.
De réflexion. Très concrète, c'est-à-dire si je devais sortir une expérimentation d'aujourd'hui, ça pourrait être quel pitch on doit construire sur le projet. C'est plus ce type de questions-là, extrêmement concrètes, qui vont être posées au comité d'espérance, parce que précède une vraie réflexion sur les valeurs qui donnent le projet, parce que c'est ce qui a manqué dans la discussion, peut-être, et ce qui peut-être l'a fait buter par moment, c'est finalement sur le public, on veut accueillir plus de public ou pas, oui, combien, dans quelles conditions, oui, mais il y a un besoin d'avoir défini vraiment une base de valeurs, ça a occupé une partie des échanges, et de fondamentaux, et ça n'est pas le comité d'espérance qui le fera.
Ah bon, mais c'est qui alors?
On n'a pas dit que c'était pas.
On n'a pas parlé de ça.
On l'a pas
spécialement fini notre travail. Mais pour aider à répondre à ta question, que c'est juste une ouverture, tu ouvres une question.
que je ne sais pas si Dieu te laissait le bon temps. Je lui dis, mais comment tu m'as répondu oui, si déjà il y a une gouvernance. Mais.
Non, mais je dis, il y a aujourd'hui une gouvernance, mais le fait d'avoir une ORE, ça nous impose, ça nous invite à réfléchir à cette gouvernance et à créer, c'est ce qui était ressorti des deux autres rencontres,
un comité
d'espérance qui soit la gouvernance générale finalement, mais qui soit une autre manière d'envisager.
Quand je dis ça n'est pas, c'est qu'en fait, c'est pas exactement ça, c'est pour qu'il puisse fonctionner, ce comité d'espérance, dans son fonctionnement courant, il faut que ses valeurs, ses limites, ses fondamentaux soient bien définis. Parce que sinon, on se heurte, et on s'est heurté aujourd'hui un petit peu, on va se heurter, effectivement, quand on veut répondre, au fait qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été prédéfinies. Peut-être, mais ça n'empêche pas, effectivement, tu as raison, Julia,
qu'il puisse... Peut-être que cette comité accompagne la direction...
C'est dans la recherche de solutions, que le comité d'espérance a besoin de savoir c'est quoi le cadre de valeurs, finalement, dans lequel on s'inscrit, c'est quoi les objectifs du projet pour être capable d'expérimenter quelque chose.
Presque de décider quelle action mettre en œuvre,
d'expérimenter,
où il repose des questions.
Et où, du coup, là où on aurait pu dire on a un projet sur l'accueil des personnes, on demande juste à la personne en charge de l'accueil des personnes de proposer quelque chose, là, on peut prendre la personne en charge de l'accueil des personnes, agrémenter, fédérer, interroger, analyser le projet, et après agrémenter d'autres personnes qui vont venir apporter ce qui représente l'ORE, c'est-à-dire des naturalistes, des conservateurs, etc., pour essayer d'expérimenter dans un cadre. Et là, je suis sûre.
Donc, quand il s'agit de faire avancer les projets espérants de manière à un niveau plus gouvernemental, qu'il y a une instance de cette comité d'espérance qui puisse accompagner les personnes qui vont négocier.
Mais en même temps, expérimenter, c'est pas la gouvernance.
C'est une forme de comité scientifique, en fait.
Par rapport à l'émergence de l'idée, moi, je reviens par rapport à quand l'idée de comité d'espérance a émergé. Je reviens à ce moment-là parce que moi, je n'ai pas participé au débat, j'ai écouté les débats, mais pour moi, c'est pas un élément de gouvernance. Déjà, c'est-à-dire ça ne prend pas de décision, c'est un élément de recherche, pour moi c'est de la R&D, purement de la R&D, parce qu'on ne peut pas fixer aujourd'hui des caps sans savoir où on va, et pour savoir où on va, il faut d'avoir déjà fait des erreurs, se tromper, expérimenter, faire des trucs, et tout d'un coup se dire, non, on a fait un truc complètement à côté, mais par contre on l'a fait, donc on va en tirer des enseignements. Et donc pour moi c'est un espace... ouvert, et c'est ça qui est important, et c'est ça, je pense, qui est novateur, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va dire « on fait comme ça », il va dire « ok, on va partir dans cette direction-là, on va expérimenter cette chose, ça fonctionne, ça fonctionne pas », mais ça, c'est dans un deuxième temps, et à partir de là, une gouvernance se dessinera, mais c'est un élément de recherche-développement, c'est un espace... Même comité scientifique.
Comité d'intelligence collective.
Voilà, c'est même pas un comité scientifique. Je vois pas pourquoi il devrait y avoir des étiquettes. Moi, par exemple, si Noël, elle vient et qu'elle amène
son ressenti,
les scouts, le machin, qu'il y ait une ouverture sur le maximum de personnes et qu'il y a un rendez-vous hebdomadaire, je disais, qui est porté par l'équipe et que l'équipe, elle sait que tous les jeudis matins, pendant 4 heures, c'est comité d'espérance. Et les gens y viennent ou ils viennent pas. Non, mais c'est ça. Il y a un exemple qui est intéressant, on pourrait aller le visiter. Il y a à l'école photo, à l'ENSP à Arles, c'est pas loin, il y a un mec qui s'appelle Yannick Vernet, qui vient du ministère de la Culture, qui a monté le Fab Lab de l'école photo, et il sait pas du tout où il va. Mais par contre, ils ont fait un robot qui fait des photos, ils ont fait du développement avec une chimie végétale, ils ont fait plein de trucs qui sont venus de l'intérieur de l'école, de l'extérieur de l'école, ils sont ouverts à tous. Et tout d'un coup, ça fait que l'école photo, elle est regardée par le monde entier, parce que tout d'un coup, il se passe un truc dans l'usage des technologies, dans l'évolution de la photographie. Mais c'est ouvert, c'est pas un truc où on dit « on va faire comme ça ». Non.
Juste, en revanche, peut-être que pour moi, parce que justement on se heurte à ses objectifs et à ses fondamentaux, là, c'est pas effectivement le lieu de la décision, des valeurs, etc., qui, à mon avis, est du cadre et des fondamentaux. Par contre, le comité d'espérance, pour moi, dans son côté labo, on peut lui poser la question de quelle serait la bonne façon de définir ses valeurs, ses projets, etc. c'est-à-dire d'aller proposer une forme pour le faire, une façon de le faire et de le faire de façon expérimentale. Il peut proposer.
Le comité des séances, ce que moi j'en ai retiré, ça serait plutôt, et ça va dans le sens de ce que vous avez dit, non pas une instance de gouvernance, mais une instance consultative et fédérative, et c'est en ça qu'elle serait efficace, mais parce qu'elle serait constituée d'une manière bien particulière avec tous les intervenants, depuis le ministère jusqu'au jardinier, et que tous les gens qui sont concernés par ces choses-là soient présents et aient leur mot à dire là-dedans. Donc là, c'est consultatif et ça devient fédérant parce que chacun a eu sa, parole et a pu dire ce qui était important dans la partie dans laquelle il intervient. Mais ce n'est pas une gouvernance.
Simplement pour compléter, parce que c'était vraiment le thème de, à l'atelier 2, quand on questionnait travail contre nature, on avait posé la question si ça allait du côté gouvernance ou du côté Fab Lab. C'était clairement orienté côté Fab Lab pour toutes les personnes qui ont participé, donc ça va dans le sens de ce que vous dites. Mais par contre, sur l'aspect matériel, c'était vraiment plutôt que de recréer par exemple un atelier de chimie si on a envie de faire de la photo moins impactante sur le plan environnemental, en fait on va aller s'associer avec des personnes du territoire quand un atelier de chimie. C'était simplement ça. Du coup ça rend la chose un peu plus méta peut-être, mais en tout cas c'est vraiment cette idée d'expérimentation qui avait été retenue au deuxième atelier.
Mais pour qu'il y ait une continuité, je pense que ce qui est important, c'est qu'elle soit intégrée dans l'équipe d'Espérant et que ça soit pas, et que s'il y a des personnes extérieures qui viennent, moi j'ai envie de venir, je viens, c'est jeudi matin, je suis là. Voilà, vous avez envie de venir, et c'est ouvert. Et les gens viennent, il se passe un truc, et puis ah bah tiens, là on a un problème avec la signalétique, là on a un problème avec la gouvernance parce que je sais pas quoi.
Exemple concret, l'accueil des vélos. Voilà, ce matin, ce qui a sauté aux yeux de tout le monde, c'est l'accueil des vélos. C'est quelque chose qui pourrait être traité, soit de manière très technique, on fait le même système d'accueil de personnes à vélo, comme on le voit partout en France et partout ailleurs, ou alors on se dit, sur le site d'Espérance, c'est quoi l'accueil des cyclos? Voilà, et où du coup, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe comment, peut-être qu'il faut qu'il y ait des artistes qui se penchent sur le truc parce que ça peut être vilain, que ça peut ne pas avoir de sens, mais ça peut être des choses très concrètes aussi, peut-être comme ça, où c'est décidé par la gouvernance, il faut travailler sur l'accueil des vélos, mais après c'est ceux qui dirigent qui se disent on va mobiliser le comité d'Espérance pour voir ce qu'il est possible de faire, on va expérimenter, c'est ça,
ça peut être ça, et même moi j'irais plus loin, c'est qu'il y a plein de méthodes aujourd'hui, d'organisations qui permettent de prendre des décisions en 2 heures, l'accélérateur de décision, le CNR, ces trucs-là, c'est des trucs qu'on peut adapter à un mode de décision avec les gens qui sont là autour de la table, et ces gens sont à géométrie variable. Ça permet d'avoir un écosystème autour d'Espérance qui n'est pas toujours le même, qui est participatif et qui amène une grande diversité de points de vue dans les choses qui sont expérimentées. Quoi.
En sachant que le comité s'adresse à toutes les personnes de l'équipe, enfin, en tout cas, il part
de
la continuité du comité, c'est l'équipe d'Espérance.
Exactement.
Dans l'organisation, donc ça veut dire qu'il y a toute l'équipe qui est dans ce comité d'Espérance, qui se réunit, on va dire, une fois tous les 15 jours.
Voilà, tous les jeudis matin, par exemple.
C'est systématique.
Voilà, et ça se passe.
Et on invite, on ouvre.
En fonction des besoins et du moment et du projet qui arrive.
Là, ça veut dire qu'on vient manger à midi chez vous.
C'est ça, création d'un restaurant, donc...
Voilà, ça ferait...
Non, mais j'exagère un peu, mais ce que je pense, c'est que on ouvre en fonction des questions. Il peut y avoir des gens qui ont une expertise sur cette question qui viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça soit un travail au long cours, ce ne soit pas quelque chose qui soit... Après, il y a des décisions qui peuvent être prises dedans. Je te dis, il y a des outils, l'accélérateur de décision.
De projet,
c'est un truc... Donc, en 1 heure et demie, tu as pris une décision.
Ce qui en sort, en fait, est soumis à ce moment-là, est proposé à la gouvernance. On va dire.
C'est mis en œuvre et on voit que c'est de la merde en barre et qu'il faut arrêter ça tout de suite et que ça marche pas et qu'on va dire ça fonctionne pas. Et à ce moment-là, on va dire c'est une mauvaise piste et on va la documenter, donc personne ne le fera comme ça. On va pouvoir partager cette expérience. Soit ça marche super et on est étonné et à ce moment-là, voilà.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce positionnement de ce comité d'Espérance?
Ça paraît sympa, ça pose juste un problème, c'est qui va faire et faire, ça risque de retomber toujours sur les mêmes épaules et savoir l'est-il.
On n'est jamais seul à faire les choses, mais après c'est une question d'organisation.
C'est une instance d'intelligence collective, en réalité.
Oui,
Mais par contre, qui part de l'équipe d'Espérant, je pense que c'est dans le temps de travail des gens d'Espérant qui sont là tout le temps, qui font vivre le lieu, etc. Il y a un temps de recherche qui est consacré à l'ORE, aux problématiques de l'ORE, aux problématiques de la relation avec Pierre-Paul et Jacques, aux problématiques qui sont posées par tout ça, quoi.
Ok.
Mais du coup, il fallait qu'on se pose la présence, on l'a évoqué, des gens qui nous gouvernent, nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un représentant du ministère qui soit là-dedans. Parce que les budgets, c'est eux.
Oui, mais on leur présente ça. Je vous propose qu'on voit ça à l'atelier 4, quand on poussera le bouchon un peu plus loin. Et en plus, peut-être que des fois, on aura besoin, et peut-être des fois, on n'aura pas besoin, parce qu'on a aussi une marge de liberté quand on a obtenu le feu vert. Donc ce sera à géométrie variable au niveau des participants. Ça part toujours de la base. Il faut que ce soit organisé pour être maintenu, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui étouffe l'équipe. Donc je pense qu'on a récolté déjà pas mal de choses entre vos deux ateliers. Ce que je vous propose, c'est profiter du temps
juste
qui reste.
Une petite chose.
Alors petite.
Tout petite, parce qu'on l'a oublié. La notion
de risque.
Prise de risque.
Ah si, ça on l'a dit.
Ah, oui, oui, l'expérience, la prise de risque.
La prise de risque.
Ouais.
Que le comité, ou cette instance d'intelligence collective, et là, c'est intéressant de toujours combiner avec des non-employés, la prise des risques pour pouvoir arriver à rassurer cette expérimentation qui fait peur à la moitié de la France.
Très bien. Ok, donc la prise de risque, du coup, il va falloir développer une culture de la prise de risque. Je vous propose de traiter. Non, mais c'est ça, c'est une culture de la prise de risque. On n'en a pas trop la culture, il s'agit du coup de l'encourager, de la stimuler. La charte d'accueil, du coup, Julien, alors, si tu pouvais synthétiquement nous faire le retour de ce que vous avez retenu.
Pour la charte d'accueil, en fait, alors, déjà la charte d'accueil, pourquoi faire ? Alors, elle est là, en fait, pour poser les principes et les valeurs qui se dégagent, qui découlent de l'ORE. Ensuite, c'est vrai, très vite est arrivée la transcription du cadre juridique de l'ORE, bon, mettant un bémol en disant que c'est un risque de rebuter le public, parce que le but, c'est de la présenter sous forme d'invitation au public. Donc, du coup, à qui s'adresse-t-elle là, on a dit que la charte d'accueil concernait les artistes en résidence, les scolaires, les fournisseurs et les prestataires, mais tous les usagers en général. Le mécénat, le personnel du site également. Alors, je cherche, excusez-moi. Donc, en fait, la charte d'accueil, on peut la proposer sous forme d'engagement. Par exemple, si on s'adresse aux scolaires, très vite, il va falloir la proposer lors de la réservation, de manière à ce qu'il y ait un accord tacite entre le prof qui va aussi communiquer cette charte de manière synthétique aux scolaires. Le médiateur doit être transmettre aussi les valeurs de la charte, c'est lorsque le groupe se présente, bien sûr que là aussi on va présenter aussi les valeurs de cette charte. Et ensuite, excusez-moi, je cherche les deux. Donc, la forme, ça c'est vraiment ce qui est ressorti de cet atelier, c'est quelle forme pouvait prendre la charte. Donc, la charte, on peut la penser sous forme de chapitre 1, de sommaire avec des articles, mais il y a une idée très intéressante qui a été avancée de zonage, c'est-à-dire proposer une carte complémentaire qui très vite, il suffit de regarder la carte pour voir les lieux sensibles du site, qui est reprise en fait, qui est une retranscription de la charte sur cette carte, et la notion aussi de temporalité, de saison, qu'on peut expliquer également dans la charte sur l'usage des lieux, les différents lieux. L'idée également de sous forme de livret d'accueil. On a dit que la charte pouvait être indigeste, puisque voilà, il y a beaucoup d'articles. Alors, soit on fait une forme synthétique pour chaque public, c'est-à-dire que, par exemple, pour les scolaires, on fait une synthèse, une toute petite synthèse de la charte qu'on leur propose. Pour les prestataires extérieurs, pour les entreprises, enfin voilà, chaque fois donc une petite synthèse. Et sous forme de livret. Notion qui est assez intéressante parce que la charte n'est pas là pour se substituer par exemple au document unique ou le règlement de visite, elle est là pour être un complément de ces documents importants concernant le site. Et donc dans le livret d'accueil, on peut prendre des éléments essentiels de la charte avec aussi des éléments essentiels du règlement de visite pour que justement on puisse remettre plutôt ce livret d'accueil aux visiteurs et que ça se présente sous forme de deux pages seulement.
mais qu'on a l'essentiel qui est noté. Ensuite, on a posé la question de qu'est-ce qu'on met dans cette charte, comment on peut la présenter. Alors, on a pensé que dans le préambule de la charte, il est très important de présenter, bien évidemment, le site, son historique, brièvement, l'objet de l'ORE, à quoi consiste l'ORE, et la démarche du site qui en découle. Et dans l'article 1er de cette charte, viendrait donc l'explication des valeurs et des principes portés par l'ORE. Voilà, donc de manière synthétique.
Est-ce qu'il y en a parmi le groupe Château qui souhaite préciser quelque chose qui n'aurait pas été dit ? Ou ça va, vous y retrouvez sur ce que vous avez pu partager, c'est bon ? Ok. Du coup, peut-être que groupe Parc, vous pouvez réagir et peut-être, voilà, je ne sais pas si vous avez des choses qui font écho, que vous avez retenues. Ça peut être intéressant aussi de présenter un petit peu comme ça, peut-être en voyant qu'est-ce qui fait écho et après qu'est-ce qui est différent.
En chose commune, notamment est ressortie la nécessité d'avoir plusieurs formes de. Des chartes de différentes formes. On ne peut pas accueillir un scolaire comme on va accueillir un artiste ou comme on va accueillir accueillir des entreprises pour des travaux. Il faut donc penser plus institutionnel pour les entreprises et quelque chose de beaucoup plus synthétique et de beaucoup plus sympathique même à regarder pour notamment les enfants. Il y a sur un chameau, je ne sais plus où, ils ont fait une bande dessinée. Il y a certainement des visuels à développer pour que rendre ça beaucoup plus intéressant. Que cette charte aussi, elle soit un support adapté du coup, pour tous les publics et qu'elle permette aussi d'avoir une certaine compréhension du lieu qui n'est pas forcément facile à comprendre à premier abord, notamment quand on traverse le parc, parce que cette notion de paysage elle est très compliquée et elle fait partie quand même du patrimoine des choses qui nous concernaient. En lien avec ça, il y avait aussi la notion qu'elle doit traiter de la temporalité du lieu qui va être du coup différent à l'occasion des saisons et qui va surtout être mouvante. On va forcément sur le parc avoir des actions en lien avec le vélo, donc cette charte elle ne peut pas rester figée et elle va devoir être mouvante dans le temps en fonction des actions et des choses qui vont être menées. S'il y avait une zone de libre évolution à un endroit à un instant T, elle peut peut-être bouger dans le temps. Donc il va falloir s'adapter aux différentes évolutions qu'il va y avoir au fil des années. Et on a noté qu'il y avait, je ne sais plus aussi dans quel lieu, que les institutions administratives de gouvernement ont aussi signé la charte. Et ça pourrait être intéressant que, ici, les organes de gouvernance et les différentes structures qui gravitent autour d'Espérance signent cette charte-là pour montrer leur adhésion du coup, aux valeurs que l'ORE va transmettre au travers de son accueil du public. Et on peut peut-être temps de faire tout le tour, mais on a aussi pas mal d'idées un peu plus concrètes et précises de choses qui pourraient être inscrites dedans, qui ont été posées sur les feuilles.
Très bien. Est-ce qu'il y en a qui veulent du coup réagir ? Compléter ce qui a été dit par rapport à cette charte qui finalement on entend, hein, c'est une base commune, et ça c'est commun sur vos deux groupes, qui doit trouver du coup sa déclinaison, sa traduction en fonction des personnes à qui elle s'adresse. Et ici on voit bien que les personnes sont multiples. Pour celles comme nous par exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui on aurait été concerné par cette charte pour venir passer la journée d'aujourd'hui. On en aurait peut-être eu besoin pour mieux comprendre le site, avoir adopté le meilleur des comportements pour être, comme on disait, accueilli le mieux possible. Ok ? Donc, on voit les enjeux où le site est vivant, dans ses espaces, dans sa temporalité, que l'accueil se fait toute l'année, et donc, voilà, ça ne va pas être un document figé, a priori.
Oui, c'était une tâche.
A priori. Oui, mais il faut que ça prenne en compte ça, ok. Pas d'autres réactions sur l'accueil des personnes
sur les chartes, sur la charte par rapport à toute cette complexité des usages, des zones, etc. Dans le groupe aussi, on avait parlé de la question de la synthèse, donc peut-être qu'on a un préambule, ou je ne sais pas du tout ce que c'est quand tu as dit préambule. Mais pour moi, je n'ai pas très bien, c'est pour ça qu'il a précisé que ça ne remplaçait pas un règlement intérieur d'un document unique. C'est vrai que moi, dans la notion de charte, moi, j'aimerais plutôt quelque chose pour en discuter, qui soit plutôt au contraire synthétique, pour éviter justement toute cette question qu'on voit derrière de décliner d'autres, peut-être pas confondre l'objet, et se dire que la charte, c'est bien préciser des valeurs indispensables, en fait, c'est un préambule ou un préambule, et qu'ensuite, évidemment, évidemment, ça se décline de manière opérationnelle avec les usages, avec les zones, avec les saisons, tout ça. Mais que si on ne veut pas être obligé de,
d'adapter systématiquement.
De se dire, bah, tiens, toi, tu vas voir ça, tu vas voir ça, etc. Par exemple, on se dit, bah, tiens, site internet, hop, bah, la charte, si c'est 30 pages, elle est clinée. Est-ce que du coup, qu'est-ce qu'on entend par charte? Et est-ce que c'est possible de faire d'une charte, effectivement, une déclinaison de valeurs
commune, quel que soit commune, le
resserré, qui parle au plus grand nombre. Et qu'ensuite, tout ce qui est déclinaison d'usage, de zone, de temporalité, ça c'est dans d'autres documents.
Ça peut rentrer dans l'appel à projet pour les
opérationnalistes,
les cahiers des charges pour les prestataires qui interviennent sur le site, les contrats avec les scolaires.
En fait, il y a d'autres déclinaisons qui sont des déclinaisons d'usage, mais il y a chaque déclinaison d'usage en fait reprend les principes de la charte qui sont du coup.
Et adapté du coup à l'usage qui est prévu. Un scolaire, c'est pas la même chose qu'un artiste, c'est pas la même chose qu'un prestataire. Donc là, en fait, tu nous invites à se dire, la charte, c'est quand même les valeurs fondamentales qui font que, espérons qu'il conçoit, on est tous les bienvenus, mais voilà le cadre.
Ça permet aussi aux décideurs du site de pouvoir s'appuyer dessus en disant, vous voulez installer un cirque dans la pelouse, ça peut pas parce que vous allez écraser la charte. En fait, ça donne un argument, une base sur laquelle on peut s'appuyer pour dire parce qu'il va y avoir peut-être plus de sollicitations et donc ça permet de bien...
Donc c'est bien la traduction de cette contrainte volontaire qu'est l'ORE, mais de manière un petit peu plus opérationnelle et comme un outil qui permet de se dire, est-ce qu'on peut accueillir un cirque sur la pelouse?
Il y a quand même un problème de terminologie entre charte et règlement intérieur. La limite entre les deux n'est pas tout à fait claire. Je pense que ça serait pas mal. Charte valeur et règlement intérieur plutôt
par rapport
à d'autres choses pratiques sur l'utilisation du site.
Mais ça, on se rend compte régulièrement depuis le début qu'on a un besoin de préciser ce que l'on entend sur chaque outil, chaque mot parfois, et qui peut être différent en fonction de la casquette que l'on a, si on est naturaliste, artiste.
Moi, je voulais donner un exemple, en fait, qui vient du cinéma. Ça s'appelle Le Dogme. Tout le monde a entendu parler de l'art rentré, toute cette bande. En fait, ils ont 10 points, et c'est, avec ces 10 points, on fait des films. C'est assez ouvert pour pouvoir faire plein de trucs. Et il y a 10 règles. Et avec ces règles-là, on peut faire du cinéma différent du cinéma qu'on fait habituellement. Donc je pense que c'est intéressant parce que dans le champ artistique, la contrainte, on en a parlé quand on marchait, il y a eu cette question sur la contrainte, est toujours vachement intéressante parce que ça ouvre des espaces de possibles. Donc je pense que c'est un bon exemple. On peut regarder des chartes qui ont été faites dans différents champs
culturels.
Mais en tout cas, avec 10 lignes de chartes, on peut faire beaucoup de choses.
Et là, les 10 points que tu dis, c'est concret. Tu as un exemple en tête d'un point.
Je ne peux pas vous lire la charte du dog. C'est par exemple, il n'y a pas de pied pour les caméras. La caméra, elle est portée sur le corps. Il n'y a pas de son repris. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doublage, c'est des couleurs naturelles, pas d'éclairage artificiel. C'est des règles très élémentaires, mais de toute façon, les règles elles doivent être très élémentaires, sinon les gens ne les comprendront pas, ils ne pourront pas les appliquer, et puis personne ne va se dire, ici il y a des maternelles qui viennent. Donc ce qui est intéressant, c'est que le maternel, quand il rentre à sa maison, il dit à sa maman, j'ai touché peu d'espérant. On peut pas faire ces 10, on doit faire ces 10 choses-là. Et que lui puisse les transmettre. Et là, si on arrive à faire ça, tout le monde le comprend.
Okay. Il me semble qu'on a évoqué justement dans le groupe auquel j'étais, le fait que par rapport à un règlement de visite, l'idée de la charte qu'on avait eue, c'est quelque chose qui soit plus une invitation à partager des valeurs que des règles à suivre.
Là, c'est
plus,
on n'est plus sur
le même. Frédéric disait un truc très juste à un moment, parce qu'à un moment, il y a eu une discussion sur les barrières. Est-ce qu'on met des barrières? Est-ce qu'on interdit des zones? Est-ce qu'on peut aller là, pas aller là, etc. Elle avait dit, mais moi, en fait, il suffit de mettre un chemin, et que ce chemin, il va définir le trajet, et il y a des endroits où il n'y a pas de chemin, donc les gens n'y vont pas parce qu'il n'y a pas de chemin. C'est exactement donc, la charte, ça peut être, c'est une métaphore, elle peut peut-être nous aider. Il y a peut-être un chemin vers l'ORE qu'on doit baliser, quoi. On est des petits poussets.
C'est ça. Selon comment c'est formulé, c'est je filme ce que je veux, mais à la main. C'est, non, mais par rapport à l'interdiction
ouais, d'avoir enfin, un pied... Le dogme, c'est un truc très dur à respecter. Hein. Mais par contre, il y a plein de films dans le dogme...
Mais ça fait une signature.
Ah, mais c'est une signature, voilà. Et surtout, c'est un cinéma qui est vraiment particulier. C'est-à-dire, voilà. Tu vois un film du dogme, tu fais ça, c'est... ça peut être le dogme.
Voilà, mais du coup, Espérance, ça participe à sa signature aussi.
Exactement.
Ok.
Et surtout, il y a une idée, c'est que Espérance doit faire des petits, à la fois dans l'institution et alentour. Et donc, ça veut dire que si on a une charte qui est... Comment ? Bah, si on a une charte qui est comprise, on va pouvoir la mettre en avant.
Tout à fait.
Le dogme, c'est un truc de Danois, à la base. Et ça a traversé l'Atlantique. Hein. C'est vraiment un truc de Danois.
C'est ce qu'on disait sur le fait de partager.
Ben, je pense que si on fait une charte, cette charte elle s'adresse à Espérant, mais elle s'adresse à tous les gens qui veulent faire une ORE en disant voilà, nous, on est en train de se prendre la tête, on est 55 autour de la table, on discute depuis 2 ans. Alors, regardez, on a fait ce truc-là, peut-être ça vous aide.
Parfait.
Peut-être.
Oui. Ok. Bon, on n'a pas fini de trancher, on n'a pas tout décidé. Vous avez amené votre matière, je vous en remercie. Il est 17h04, j'ai presque l'impression qu'on finit à l'heure. En principe, alors quand il y en a qui sont obligés, ben, ils nous quittent, parce que l'heure, c'est l'heure. Ouais. Et sinon, on aime bien faire un dernier petit tour de table pour se dire au revoir. Et donc voilà, nous, on vous remercie bien sûr, mais c'est l'occasion pour vous aussi ben, de partager un dernier élément avec nous, peut-être sur le contenu, mais si, ne serait-ce que sur l'expérience vécue aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui vous a plu, quelque chose qui vous a déplu, bah, c'est peut-être l'occasion aussi de le partager avec nous. S'il faut améliorer quelque chose, dire, mais tu parles trop raccourci, bah, voilà, c'est l'occasion de le dire. Et donc voilà, je vous offre la parole sur ce dernier tour de table pour que vous nous aidiez un petit peu à grandir parce qu'il reste quand même un atelier. Et voilà, donc on progresse. Je peux donner la parole comme ça ou sinon vous pouvez la prendre, c'est pas mal. Et voilà. Alors, cette expérience, puisqu'en plus, ce n'est pas le premier atelier que tu as avec nous, qu'est-ce que tu en retiens pour ton dernier mot de la journée?
C'est intéressant parce qu'on échange sur beaucoup de sujets. Après, c'est vrai que c'est compliqué de voir vraiment où on va. Mais c'est un peu plus tôt aussi, je pense. Que, je sais pas.
C'est pas grave, mais il va falloir commencer à ce que ça se concrétise quand même.
Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un mot qui n'est pas trop ouvert quand même. Il y a beaucoup de questions, de plus en plus de questions.
Oui, c'est bien. Ça soulève des questions.
Ça soulève beaucoup de questions. Tout à fait. Ok.
Mais je pense que les questions sont fondamentales parce qu'on ne peut pas avoir de réponse sans avoir des questions. Et donc, beaucoup de choses qui ont semblé éventuellement dérivées, etc., c'était un peu des retours à fondamentaux. Principe, qu'est-ce que c'est la conservation, est-ce qu'on doit conserver, pourquoi. Donc évidemment, ça paraît erratique, mais on ne peut pas attendre, surtout dans ce mode de fonctionnement collaboratif, de faire émerger des réponses à des questions.
Ouais. Peut-être on aurait pu se poser par contre l'histoire.
Se poser dans le parc.
Et dans la table, j'ai vu qu'il avait comme différents niveaux de compréhension. Donc il y a ceux qui se sont permis de partir dans toutes les branches et ceux qui sont travaillés sur les concrets, et ça je trouve intéressant. Parce qu'il y a une complémentarité. Après, bien sûr, il y a ce travail d'atténuer à faire.
Ok. D'autres réactions par rapport justement au fait d'avoir passé un temps plutôt en immersion, pas seulement en salle, sur autre chose, hein, vous êtes libre de partager avec nous. Oui.
J'ai beaucoup apprécié cette ouverture et cette diversité de points de vue. Après, je m'interroge sur l'ouverture du champ du questionnement, parce qu'effectivement, il faut pouvoir se poser des questions, même des questions qui ne sont pas utiles tout de suite, mais il faut un temps de recul pour pouvoir synthétiser, même ne serait-ce qu'en soi. Et du coup, j'aurais bien restreint les champs du questionnement pour essayer d'apporter des débuts de réponse, parce que c'est frustrant de lever des questions et partir sans piste de réponse. Et voilà. Donc, j'aurais aimé avoir peut-être des retours sur l'atelier suivant qui risque de questionner ou d'apporter des réponses aux questions qu'on a posées. Peut-être d'être assimilé à la suite, à l'ensemble du processus, de façon à pouvoir synthétiser et affirmer les apports.
Alors pour ça, on a un outil, on a Résona. Alors ça va peut-être changer puisque le ministère réfléchit à d'autres outils, mais on a un outil. En fait, l'idée, c'est de tout ce qui se passe en termes de production, en fait, c'est de mettre, par exemple, on vous a interrogé, en fait, les interviews sont en ligne, par exemple. On peut aller réécouter. Donc l'idée, c'est de remettre tout ça à disposition. Ça, c'est une chose qu'on peut se faire. Après, dans le processus où on est, là, en fait, c'est théoriquement en juin, on a un comité de pilotage, on a un dernier atelier. Et on a un comité de pilotage et on doit faire présenter ce qu'on a obtenu du cadre de gestion. Qu'est-ce que c'est que ce cadre de gestion? Donc on est dans cet objectif. Est-ce qu'on va y arriver? J'espère. En tout cas, on aura en principe un cadre de gestion. Bon, là, évidemment, on va diffuser des informations. Et après, on rentre dans l'idée d'aller dans le plan de gestion qui est un plan là plus opérationnel. Et là, c'est d'ici la fin de l'année. Mais je ne pense pas qu'on aura fini. Et donc, on est dans un processus quand même assez long, je pense, de réflexion. Mais c'est vrai que, si c'est la question, c'est que tu as besoin d'un format, de suivre, parce que vous venez une fois, parce que vous pourriez venir à chaque fois, mais ce n'est pas possible de vous mobiliser tous. Mais c'est que le choix qu'on a fait, c'est-à-dire d'ouvrir à plus de monde de possible, plutôt que de choisir un petit groupe qui serait venu tout le long du processus. Voilà, donc après, oui, il va falloir que nous, on puisse vous faire remonter, partager tout ce que l'on a pu, que le groupe projet finalement a pu tirer de tout ce que vous apportez. C'est notre mission, c'est notre rôle en fait, il faut absolument que vous soyez informé de ça.
Oui, parce qu'on puisse éventuellement réagir, pour continuer si ça se produit.
Mais à mon avis, on est au début d'un processus quand même assez long. Forcément, vu la manière dont on a abordé les choses, c'est une manière de commencer à réfléchir de manière, entre guillemets, un petit peu philosophique à la gestion.
En sachant que l'échange peut continuer par mail ou via Résona, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop fait jusqu'à présent, mais ce serait tout à fait possible d'avoir une plateforme sur laquelle continuer d'échanger sur les questions et que n'importe qui puisse y participer, n'importe qui a participé.
Mais cette participation, j'ai l'impression, pas pour les cas d'espérance, mais par ailleurs, d'aller participer sur un site en ligne, sur quelqu'un, c'est pas pareil, et puis les gens ne les font pas trop. Mm-hmm. Au moins qu'il y ait une grande culture, au moins que la personne soit engagée de l'intérieur et qu'il y ait un résultat à atteindre et un objectif.
Je pense
qu'il y a peut-être qu'il faut faire plus d'ateliers.
Je pense qu'en même temps, là, on est en train d'essayer d'expérimenter le comité d'espérance et qui va se renouveler. Et vous faites partie, du coup, des personnes qui gravitent autour et dans le château d'Espérance. Et du coup, non seulement nous, on va avoir le devoir de vous tenir informés des suites. C'est-à-dire qu'on doit arriver effectivement à un cadre de gestion. Qu'est-ce qu'il y aura exactement dedans? Je ne sais pas. Possiblement des valeurs, peut-être en 10 points, on va avoir, mais qui vont offrir le cadre pour être en capacité derrière de lancer les études pour des plans de gestion qui seront beaucoup plus experts, peut-être. Donc du coup, voilà, on a besoin de ce cadre, de ces valeurs qui vont permettre après d'initier des actions. Et ces actions, comment on va les initier? Ça, c'est le comité. Du coup, on se dit finalement, le plan de gestion, est-ce qu'on fait un plan de gestion naturaliste,
comme les naturalistes savent très bien les faire, qui n'avaient pas besoin de 4 ateliers pour les poser. Ou est-ce que justement, ce plan de gestion pour le parc, il va être un petit peu différent parce que les naturalistes ne vont peut-être pas travailler comme ils ont l'habitude de travailler, parce qu'il y aura peut-être un comité d'espérance qui va du coup expérimenter quelque chose. Et donc, nous voilà, on devra avoir le cadre. Dans ce cadre, on va identifier les grandes actions qui vont devoir être mises en œuvre. On va identifier aussi les valeurs qui seront les fondamentaux communs, quoi que l'on fasse. Et avec le comité, je pense que, au-delà de ces retours sur cette démarche, c'est les comités qui font que, si ça se met effectivement en œuvre, vous ferez partie des personnes mobilisées, mobilisables. Sous quelle forme, sous quelles conditions, il faut qu'on continue à maturer les choses, mais vous aurez un intérêt à continuer à porter votre regard sur le site en fonction des sujets sur lesquels on pourrait être amené à vous solliciter.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a, dans les 4 ateliers, là, il y a plus de 70 personnes qui sont venues, quoi. C'est quand même énorme.
C'est quand même énorme.
Je ne pensais pas qu'on avait autant de
monde. Mais
non. Des personnes très diverses.
C'est sûr.
Et, c'est une vraie richesse. Maintenant, c'est une vraie difficulté aussi.
À gérer. Et c'est vrai que pour arriver à l'opérationnel, au concret, le fameux où on va exactement, c'est pas évident, puisque du coup, c'est pas nous qui le maîtrisons. On suit l'intelligence collective, là où vous nous menez, et on essaie d'en tirer des enseignements. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir avant qu'on boucle sur ce petit tour de table avec...
Oui. C'est pour rebondir un peu, à la fois sur une confiance, c'est-à-dire que je pense que le fait de... Mon sentiment aujourd'hui, c'est une confiance, et que plus on a de matière, ça peut paraître non plus. Plus moi je me dis non, mais en fait, je vois où ça se classe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de matière, on est en train de la classer. On est en train de la classer en format, on est en train de la classer en principe. Et quand on fera l'entonnoir, j'ai aucun doute sur le fait que les choses aillent au bon endroit. Parce qu'on a une grande richesse et. Pas tant de contradictions, il y a des choses qui s'ancrent. Et une attente pour la prochaine fois, une envie qui rejoint ce que vous disiez, c'est pour ça que je vous prends la parole, une envie que la prochaine fois, on soit dans un format effectivement de questions restreintes. Parce que si on veut continuer d'expérimenter ça, moi j'ai eu l'impression aujourd'hui que le format de questions n'est pas adapté à ce process-là. Et une envie pour la prochaine fois d'être dans quelque chose d'un petit peu systématique. C'est-à-dire dans une méthodologie beaucoup où on puisse s'abandonner un peu. C'est-à-dire que le cadre soit tellement serré qu'on puisse s'abandonner dans la réflexion parce que le cadre est très serré.
Ça vous parle ?
Parce qu'il y a des méthodes qui sont timées à la seconde, etc. Et qui permettent par contre d'ouvrir la réflexion parce que la méthodo est très très cadrée et peut-être sur un sujet... adapté à ce type de méthodologie.
Et on garderait l'instance comité
et quand on est là-dessus, mais une question adaptée, très timée, soit ça peut être, on prend une méthode, il y a plein de méthodes qui existent. Il citait l'accélérateur de projet, c'est une méthode très systématique. On peut tester un accélérateur de projet, il y a plein de... J'ai une envie, effectivement, parce qu'on a été dans des choses très ouvertes de tester peut-être dans des ateliers et des choses plus
cadrées. Choisir une des thématiques, on sait que ça va avancer les projets, mais c'est dans lesquels ça va nourrir quelque chose de concret.
C'est ça.
Ok.
Parce que ce qui me semble intéressant, c'est ce processus itératif. C'est-à-dire que là, on est très ouvert de resserrer sur des questions plus précises, permettra ensuite de réouvrir et de réinterroger les valeurs et la façon dont elles sont formulées. Mais voilà, je pense que cette itération est importante pour nourrir et construire.
Mais ça revient à la question qu'on n'a pas encore les valeurs.
Non.
Peut-être que c'est ça, les
10 points.
Les 10 points,
pourquoi pas.
Entre guillemets, chaque, et les valeurs qui vont régir
commencer à poser des briques. Célia, est-ce que tu voudrais réagir sur ce qu'on dit là, toi qui les suis, les ateliers du dedans, avec ton esprit scientifique?
C'est un peu difficile à suivre par moment. On se rapproche du concret, puis on se repose une question, puis on se rééloigne du concret, puis on s'en rapproche. Et c'est vrai, tu l'as dit, nous, le plan gestion naturaliste, on peut le rédiger tout seul. Donc pour nous, c'est une démarche un peu.
Qu'est-ce qu'on dit?
C'est un peu bizarre, mais parfois on se dit, mais est-ce qu'on perd pas un peu de temps? On pourrait aller plus vite, mais en même temps, ça intègre des gens qu'on n'a jamais intégrés à des démarches pareilles. Donc c'est ça que je veux
dire.
Non.
Moi j'ai une question.
Oui, Jacques.
On parle de concret. Est-ce que combien de temps va durer ce processus par rapport à la gestion des plantations déjà actuelles et à celle à venir, parce, tout simplement parce que pendant qu'on parle, les arbres poussent.
Ah non,
quand il va falloir les bouger, ça peut être difficile.
Ah oui, mais la gestion courante entre guillemets, rien n'est figé. La pelouse a été tondue d'ailleurs.
La gestion courante, elle doit se faire. Et on va planter des arbres. Cet automne.
Oui, non,
mais tout ça, il faut couper.
Il faut déjà avoir
plein d'arbres.
Ça va, on va les mettre.
Direction. Mais ça, pour vous, ce n'est pas cette démarche-là qui va apporter tout de suite une réponse.
Non, justement.
Par contre, on peut espérer qu'à terme, à l'issue de cette démarche-là, il y aura un cadre, il y aura des valeurs et il y aura peut-être un plan de gestion qui permettra d'avoir un projet, un plan précis. Dans le échelonné dans le temps de ce qu'on voudra faire et que ça répondra à cette ensemble. Mais en attendant, il faut continuer à avancer.
On continue à faire
comme
mal,
fait
mal les choses, mais
on les fait quand même.
Quand même.
Voilà.
C'est peut-être un peu tôt pour planter, parce qu'il faudrait peut-être avoir des idées plus claires à nous planter, pour que ce soit plus durable et que ça puisse tenir dans le projet.
Les essences que j'ai gardées pour le faire restaurant, je ne vais pas les garder.
Elles poussent, elles poussent.
Non, mais tu peux dire ce que tu as gardé.
Non, parce que ça grandit quand même.
On a parlé à un moment, là, quand on était dehors, de l'intégration du temps là-dedans.
Oui.
On n'est peut-être pas pressé de planter tout de suite des choses.
Oui.
Là, il n'est pas...
Si, parce qu'on
a
quelques essences rares à planter.
Oui. Et puis Jacques, il ne veut pas les garder.
Non, parce que...
Ce qu'il a dit, Jacques, aussi, c'est qu'il ne veut pas les planter n'importe quand, n'importe comment. Enfin, ça s'intègre dans quelque chose. Donc, quelque chose en question n'est pas posé pour l'instant, que je sache. Parce que sinon, ça va crever, ça ne s'intègrera pas.
Mais déjà, il y en a quelques-uns qu'il faudrait récupérer rapidement. J'avais proposé ça cet hiver.
Mais ça pourra se faire, moi, je
crois. Non, mais pas l'instant. Plus du coup, c'est... Moi, c'est facile à les enlever, quoi.
Mais cet hiver, c'est dans 3 mois. 4
mois. Elle se nourrit pour une année complète, quand même.
D'autres réactions?
Un atelier fondamental, un atelier...
Avant qu'on déclare cet atelier clos. C'est bon, écoutez, merci. Et franchement, je ne vois qu'ici, moi, en principe, quand je dis qu'à 17h, c'est fini, à 7h, peut-être, il n'y a plus personne. Et du coup, c'est formidable, vraiment, le temps que vous offrez, parce que c'est un cadeau, hein, on le prend comme tel, et les réflexions que vous portez, merci beaucoup.
Thank you.
directement.
Et si tu connais ce cinéma,
c'est normal. Je veux dire...